Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui sur Radio FM+, un groupe de qui s'appelle Fin de Justice pour la Palestine. C'est un mouvement citoyen qui intègre des soignants témoins à Gaza, qui entame depuis le lundi 31 mars à Marseille une grève de la faim et un jeûne solidaire itinérant dans plusieurs villes jusqu'à Bruxelles, en synergie avec d'autres citoyens au travers de l'Europe. Et nous avons donc le plaisir de recevoir sur Radio FM+, Khaled, Amina, Marie, Rislaine et Pascal, qui sont donc les cinq personnes. Ils vont nous parler donc de leur initiative, du mouvement qui s'est dessiné là depuis quelques jours, de leur parcours qui les amènera jusqu'à Bruxelles, et bien sûr aussi de la raison pour laquelle ils ont entamé ce jeûne pour la Palestine. Tout d'abord, ça a démarré rapidement hein, ces derniers jours, là, lundi 31 mars. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a démarré? Vous, Pascal, et vous, Khaled, vous avez en tout cas aussi... Vous êtes des soignants, hein, vous êtes des médecins, hein, et vous avez... Vous avez été en Palestine récemment, ou dans les derniers mois en tout cas, et vous pouvez témoigner donc de la situation.
En effet, moi et Pascal, on a été l'année dernière. Moi, j'ai été le premier groupe qui a pu rentrer à Gaza au mois de janvier, et je suis retourné pour passer le mois de juillet dans le nord de Gaza. Et j'ai pu me rendre compte de la situation gravissime qui frappe la population civile, qui frappe les infrastructures de santé hospitalières, l'eau potable qui n'existe plus. Il y a eu un ciblage des stations de pompage, à peu près 2600 stations, et puis d'eau potable qui ont été touchées, et le reste aussi qui suit. Donc les boulangeries ont été ciblées, les supérettes qui distribuaient l'aide humanitaire étaient ciblées, les hôpitaux, quand on est rentré au mois de janvier, il y avait à peine deux hôpitaux qui fonctionnaient à peu près sur un nombre de 38 hôpitaux qui étaient auparavant fonctionnels. Donc cette situation s'est perpétuée, s'est aggravée. Je suis retourné au mois de juillet dans le nord, où j'ai pu travailler à l'hôpital Kamal Adwan avec le directeur qui est actuellement emprisonné, le directeur docteur Abou Safia. Ce directeur qui a refusé justement de fermer son hôpital, de quitter son hôpital et de s'occuper de des patients, des victimes et accompagner son personnel. Il a d'abord été menacé, après il y a eu assassinat de son fils de 15 ans qu'il a dû enterrer dans la cour de l'hôpital. C'est pour vous dire un petit peu la situation difficile des hôpitaux, des soignants, des secouristes, des journalistes et de le reste de la population qui est ciblée. Malheureusement, c'est que on a soigné que des civils, on n'a pas vu de combattants ou de gens qui s'étaient engagés.
Oui, Pascal. Les soignants sur place, que ce soit en Cisjordanie en 2023 ou à Gaza en 2024, nous ont dit merci d'être là. Mais regardez, on est complètement dépassé. L'hôpital dans lequel on intervenait, 25 000 personnes à l'intérieur d'un hôpital fait pour 300 personnes. Pas de médicaments. Moi, j'y suis allé comme infectiologue. Il n'y avait pas de quoi préparer les patients avant les interventions. Il n'y avait pas d'antiseptique. Il n'y avait pas les disques d'antibiogramme. Une mortalité énorme post-opératoire. Donc, quand on compte les morts directes, il faut ne pas oublier, bien entendu, les morts indirectes. Et maintenant, les morts de la famine liées à la fermeture complète, donc de toute aide depuis le 3 mars. Donc nous, si on est là aujourd'hui avec Khaled, c'est qu'on n'a pas pu rentrer, on devait rentrer la semaine dernière, tous les médecins sont bloqués, il y a un groupe de 5 sur 18 qui ont pu passer avec des Américains il y a une quinzaine de jours. Et donc si on est là au point de se mettre en grève de la faim, c'est que depuis nos retours, nous avons tout tenté au niveau contact politique, au plus haut niveau, en France, à l'Assemblée, au Parlement européen, et dans les médias, et franchement, le silence qui est présent et dont nous parlent les amis là-bas, c'est-à-dire vous nous aidez à soigner, c'est gentil, mais rentrez chez vous, car le silence et l'hypocrisie de l'Occident et des États-Unis d'Amérique, par non-respect du droit international, des règles que vous mettez en place mais que vous ne respectez pas et qui sont responsables de l'apartheid, de la colonisation et de ce que l'on vit et que nous avons, nous, dès février, janvier l'année dernière, confirmé l'intention génocidaire de manière extrêmement explicite. On a des images et des sons absolument terribles qu'on a directement transmis avec les comptes rendus opératoires, directement donc à la CPI et aux avocats de l'Afrique du Sud et à Genève, bien entendu. Et donc, devant ce silence, nous n'avons pas d'autre choix que de nous mettre en difficulté nous-mêmes, parce que nous sommes en difficulté psychologiquement tous, devant ce silence absolument assourdissant, et la non-réactivité des politiques, de chaque citoyen, mais aussi des associations cultuelles. Donc là, vous avez un groupe qui a été accueilli par la communauté protestante de Montpellier, la communauté catholique ne s'étant pas donné les moyens de nous accueillir, malgré la rencontre avec l'évêque il y a un mois. Et donc nous sommes absolument déterminés dans un mouvement donc laïque, dans un mouvement totalement apolitique, dans un mouvement sans étiquette, avec comme seule motivation donc de rappeler à chacun d'entre nous, citoyens, mais aussi politique, communale, départementale, régionale, nationale, internationaux pour l'Europe, leur obligation de respecter les avis de la Cour internationale de justice de janvier et de juillet 2024, qui nous oblige, qui nous contraint de manière forte à arrêter tout commerce et toute coopération avec un État qui ne respecte pas le droit international, qui ne respecte pas le droit humanitaire.
Donc vous avez entamé ce mouvement de grève de la faim depuis dimanche dernier, hein. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, enfin nous dire un peu le parcours et quels sont les... Alors vous me disiez qu'il y avait déjà beaucoup de monde autour de vous là qui vous soutenait et qui vous rejoignait dans le mouvement de jeunes pour cette justice pour la Palestine.
En effet, on a démarré ce mouvement le lundi 31 mars à Marseille. Nous étions 4 grévistes de la faim et il y avait 4-5 jeuneurs solidaires. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes 10 ou 11 grévistes de la faim et une vingtaine de jeûneurs, et sans doute plus, parce que d'autant que les informations nous remontent dans toute la France. Il y a des personnes à Marseille, à Strasbourg, en région parisienne, à Béziers, etc. quoi.
Et le Portugal et l'Italie commencent à s'associer. L'Espagne et l'Angleterre avaient déjà commencé. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place une synergie entre les différents pays européens, les citoyens des pays européens, pour demander aux politiques de faire ce pour quoi ils ont été élus, respecter le droit, et d'arrêter un massacre dont notre silence nous rend chacun complice.
En fait, j'aimerais aussi ajouter que, à travers en fait, les différentes villes étapes, ces premières villes étapes qu'on a traversées, on s'aperçoit que les voies de la paix sont nombreuses et qu'on a un soutien qui prend très vite, puisque rien que sur une page Instagram qu'on a créée il y a peut-être 72 heures, on est déjà à plus de 1700 personnes. 1700 personnes qu'on ne connaît pas et qui nous soutiennent. Et qui, en fait, au fur et à mesure, comme disait Amina, s'inscrivent pour s'inscrire en tant que jeûneurs solidaires. Donc, je pense que nos voix, on s'aperçoit que nos voix, elles sont importantes, même si elles sont invisibilisées dans les médias. Et on est déterminés, en fait, à ce qu'on nous entende partout.
Invisibilisés dans les médias. Par exemple, quand nous sommes revenus avec Khaled de Gaza l'année dernière, à Marseille, nous avions 12 journalistes présents pour une conférence de presse qui a duré 2h30. Là, c'est moins croustillant, on n'a pas des trucs croquants à vendre, on a juste le droit à rappeler. Nous avions un journaliste plus une France 3 PACA qui a diffusé donc hier soir 3 minutes sur les 45 minutes d'enregistrement. Et à Montpellier, nous avions donc un journaliste indépendant plus une deuxième journaliste indépendante, alors que tout le monde est largement convié. Donc cette absence de couverture médiatique interroge franchement sur l'évolution de notre démocratie.
Oui, alors que votre mouvement est vraiment, vous l'avez dit, un citoyen non politique. Bien que vous accueillez pour les sensibiliser aussi les représentants des partis politiques, mais vous voulez vraiment vous assumez vraiment la totale indépendance politique.
Totalement, c'est extrêmement important pour nous de ne pas avoir d'étiquette, et notre objectif, c'est de rencontrer les personnes qui ne sont pas les personnes qui sont dans les manifestations habituellement pour défendre le droit des Palestiniens, manifestations totalement pacifiques depuis le 7 octobre. C'est de pouvoir rencontrer toutes les autres personnes qui sont très mal à l'aise par rapport à ce qui se passe là-bas, mais qui ne parlent pas, qui n'osent pas en parler. Parce que c'est sûr que la circulaire Dupond-Moretti du 10 octobre est devenue très castratrice des libertés, dans la mesure se réunir dans un espace public pour recontextualiser cet interdit. Qu'aujourd'hui, ce que l'on voit signé par un parti socialiste et d'autres acteurs, bien entendu, qui facilitent et encouragent donc le sionisme et rattachent encore le lien entre antisionisme et antisémitisme, c'est juste abject. Donc là, on va dans des mairies, on va dans des villes où les personnes ont du mal à parler. Hier soir, nous avons vécu un événement totalement improvisé, mais absolument extraordinaire. La pasteur que nous avons quittée tout à l'heure nous a dit que ça s'était jamais passé depuis le 7 octobre. Nous avons réuni de manière spontanée. L'imam et plusieurs membres de la mosquée qui sortaient de la prière, un membre de la communauté juive libérale de Montpellier, un prêtre de l'église catholique de Montpellier, et donc une pasteur, et nous. Et on a eu 2 heures d'échange extrêmement intéressant autour de la question de l'humanité, autour de la question extrêmement évidente qu'il ne s'agit pas d'une guerre de religion, d'une guerre contre des valeurs qui ne seraient pas les mêmes entre des religions, etc. Cela n'a rien à voir. Il s'agit donc d'une colonisation définie comme telle par le droit international depuis beaucoup d'années, droit international totalement bafoué. Et le droit international qui quand même rappelle, et de manière très explicite, que la résistance à la colonisation est tout à fait autorisée, légale et nécessaire. Et donc nous sommes là dans un mouvement pas pour justifier quoi que ce soit. Nous sommes tous absolument dégoûtés par tous les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité qu'il y a pu avoir le 7 octobre et après. Nous sommes là pour dire, ouvrons le dialogue, osons parler autour de nous avec des personnes qui n'osent pas. Et donc, hier, les responsables que nous avons rencontrés ont avancé entre eux et ont avancé pour pouvoir ouvrir cette parole-là. Le patriarcat latin, par exemple, pour les catholiques et l'Église en général, a quand même envoyé donc le 25 février un courrier sensibilisant donc patriarcal latin de Jérusalem, sensibilisant très fortement donc les églises en Occident pour prendre conscience de ce qui se passait, agir, ne pas rester silencieux, ouvrir sa bouche, oser la rencontre avec des gens qui ne pensent pas comme nous, pour que le droit soit appliqué. Et ce dont on parle pour Gaza et Cisjordanie aujourd'hui est bien, bien présent dans notre société française, comme vous l'avez vu, car clairement, aujourd'hui, lorsque le droit n'est pas respecté, il faut stopper l'impunité. Et donc, ce qui s'est passé lundi et ce qui va se passer dimanche en réaction, de manière totalement non ajustée par rapport au respect du droit qui nous permet de vivre ensemble, doit être de la même manière mise en place par rapport au non-respect du droit international et du droit humanitaire, qui sont directement responsables, et par notre silence, nous le sommes, chacun et chacune d'entre nous. Donc, ouvrons la bouche, faisons le nécessaire pour que ceci s'arrête, et pour que cela s'arrête, ce n'est pas des prières vaines ou des vœux. Il s'agit d'aller confronter les politiques avec lesquelles nous vivons pour leur rappeler leurs obligations et leur rappeler que s'ils ne le font pas, ils seront poursuivis et que nous aurons toujours en mémoire et nous ferons miroir avec le site stop-impunity.org de leurs propos ou de leur attitude de silence ou de non-participation.
Je voudrais rajouter quelque chose de ce qu'il faudrait retenir et marteler. Je pense ce qu'on cherche à marteler partout, c'est que nous sommes déterminés à faire comprendre à tout citoyen qu'on a tous une responsabilité. Nous ne pouvons pas accepter de rester les bras croisés dans cette impunité qui dure depuis plus de 76 ans, avec toutes les conséquences que ça a. Et il est très simple et facile de sanctionner ce pays qui ne respecte qui viole toutes les résolutions onusiennes et le droit et qui n'applique pas le droit international, qui a franchi toutes les lignes rouges. Je dis bien toutes les lignes rouges. Aucune convention n'est respectée, aucun traité international n'est respecté par Israël. On ne peut pas accepter ça. On ne peut plus accepter ça. C'est pourquoi, en fait, j'invite tout citoyen à consommer éthique et à ne plus consommer des produits israéliens et de participer indirectement ou directement au financement de ce génocide. J'invite également à ce que les politiques comprennent qu'avec les avis et les ordonnances qui ont été prononcées, qu'ils ont une responsabilité en tant que complices dans ce qui se passe. Il se doit de tout mettre en œuvre pour préserver ce peuple contre ce génocide. On sait qu'aujourd'hui, il y a encore des armes qui sont envoyées à Israël. Ce n'est pas possible. L'Union européenne a tout un dispositif pour pouvoir appliquer des sanctions immédiates. Elle nous l'a prouvé avec la Russie. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Comment faire plier, en fait, Israël, si on reste à faire des tweets? On attend de notre chef d'État qu'il agisse de manière courageuse à appliquer avec les outils qu'on a des sanctions économiques, militaires, et même plus s'il le faut. Une de nos amies, camarades ici, nous avait rappelé qu'en fait, ce qui est fou, c'est que même à l'ONU, il y a 143 pays qui sont contre ce que fait Israël. Il n'y a que les États-Unis et l'Union européenne qui continuent à soutenir Israël. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. cette situation n'est plus acceptable. Il est temps de bannir Israël de partout pour qu'ils comprennent qu'il faut que ces massacres cessent, que cette situation, aussi bien à Gaza, mais aussi dans les territoires palestiniens, cesse.
Quand nous parlons de bannir Israël, il ne s'agit pas de bannir les habitants d'Israël en tant que ceux qui se reconnaissent comme juifs. Notre discours est en rien un discours antisémite. Notre discours est un discours contre les extrêmes qui n'appliquent pas le droit.
Pascal, tout à l'heure, rappelait le silence des médias en France, mais je pense en Europe aussi. Je pense qu'il est important quand même de rappeler que plus de 200 journalistes ont été tués à Gaza. On n'a pas vu beaucoup la presse et les médias français réagir à cela. C'est plus que pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam. La question de la visibilité, enfin, en tout cas, c'est aussi un des éléments qui nous met en colère. Tous les jours, toutes les 40 minutes, un enfant est tué. Je crois que je ne sais pas quoi dire par rapport à ça, mais bon, c'est énorme. On ne va pas faire le calcul de combien de minutes il y a dans la journée, mais enfin, toutes les 40 minutes, un enfant est tué.
Et chacun de ces enfants tués, loin d'être, comme on nous le fait croire, une victime collatérale, est victime d'un crime de guerre et passible de la loi.
J'insiste sur le fait que notre action s'adresse d'abord aux politiques, c'est vrai, d'abord aux responsables, les élus, au monde journalistique, presse, médias, au monde juridique, au monde culturel, artistique, étudiants aussi, et aussi à la population, comme on vient de le dire. Chacun de nous est responsable aussi de ce qui se passe, de ce génocide, et qu'on ne peut pas laisser faire, bon, parce que toutes les limites ont été dépassées, tous les crimes ont été commis, le bombardement de populations civiles, la déportation de populations civiles, les crimes contre les enfants, les crimes contre le personnel médical, les crimes contre les journalistes, les secouristes. Et en plus de ça, on applique une famine, un blocus sur l'eau, sur l'énergie, donc pas d'électricité non plus, ce qui pénalise le fonctionnement des hôpitaux qui restent, ce qui pénalise aussi le pompage et le dessalement de l'eau. Donc c'est juste pas possible qu'on laisse faire un gouvernement fasciste, un gouvernement d'apartheid, un gouvernement génocidaire.
Je voudrais me permettre, en fait, en complément de ce que vient dire Dr Ben Boudrif, de partager en fait un message que j'ai eu de Gaza. Là, ils ont fait exploser les maisons sur les habitants, tuant des dizaines de personnes. Ils ont brûlé des gens vivants alors qu'ils dormaient dans leurs tentes délabrées. Nous n'avons plus de pain, ni de farine, ni de nourriture. Il y a une pénurie de linceuls. Il n'y a plus de place pour enterrer nos morts. Les cimetières sont saturés de martyrs. Ils ont complètement occupé Rafah. Ils ont évacué le nord et l'est de Beth Hanoun, Beth Lahia, Jabalia, El Shoujaïa et Khayounes. Des milliers de personnes dorment dans les rues sans abri. De nouveaux missiles continuent de déchiqueter ce qu'il reste d'humains et de pierres. Nos enfants n'ont plus rien à manger. Ô Allah, apaise nos cœurs, protège-nous, nourris-nous, guéris et guéris-nous, accorde à nos martyrs le plus haut degré du paradis et à nous la sincérité dans nos soutiens.
Comment ce temps de carême pour les chrétiens, où l'évangile tous les jours nous appelle à vivre en écho avec la justice, avec l'aide et le service aux plus pauvres, avec le respect du droit, comment pouvons-nous rester silencieux? Comment, dans nos temples, dans nos paroisses, dans nos mosquées, dans nos synagogues, pouvons-nous rester silencieux? Le traumatisme du peuple juif est évident. Le traumatisme du peuple palestinien est évident. Osons osons nous entendre, nous écouter comme nous l'avons fait hier soir. C'est absolument déterminant.
Voilà, écoutez, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup. En tout cas, dans ce contexte dramatique, je retiens cette lueur d'espoir dont vous nous avez fait part de cette rencontre hier soir spontanée entre différents responsables religieux qui n'étaient pas forcément mandatés par leur hiérarchie, mais qui sont venus, et c'est vraiment le sens de votre démarche, je crois.
Est-ce que c'est possible de partager les prochaines mille étapes ?
Allez-y.
Alors, je voudrais juste, pour tous ceux qui nous écoutent, donc vous avertir que nous serons ce soir à Narbonne, et ensuite à Toulouse le 5 et le 6, le 7 et le 8 à Bordeaux, le 9 et le 10 avril à Nantes, le 11 et le 12 avril à Rennes, et que vous pouvez retrouver toutes ces informations également sur notre page Instagram, Hungry for Justice in Palestine.
Voilà, bah écoutez, merci. Peut-être, Léonie, on peut passer un petit peu de musique avec laquelle on avait commencé cette émission, qui est donc Mawotini, les enfants sur la plage. Merci à tous.
Yeah.